la série de balado « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Joliane Pelletier et je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons des options de traitement et la gestion des effets secondaires dans la leucémie lymphoïde chronique avec le Dr Nicolas Finn. Dr Finn est hématologue et oncologue médical au CHU du Mont de Moncton, chef de la division régionale hématologie du réseau de santé Vitalité et professeur en enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Dr Finn, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, si vous pouvez peut-être nous parler un peu de vous, de votre pratique et de vos motivations.
Donc, bonjour Joliane, merci de m'avoir. Bonjour aux auditeurs. C'est ça, je me considère, premièrement, je vis au Nouveau-Brunswick, donc ma pratique est à Moncton. Je me considère de source acadienne avec mon père qui provient de la péninsule et ma mère qui vient de la région de Grand-Sault. Mais j'ai surtout grandi à Fredericton en milieu francophone minoritaire. Je me suis promené à plusieurs endroits pour mes études, mais principalement mes études médicales ont été effectuées à Sherbrooke, Montréal et Halifax pour obtenir mes certifications en hématologie et en oncologie médicale par la suite. Ça fait 11 ans que je suis présentement à Moncton, au centre hospitalier de Dumont. Et puis, mes champs d'intérêt sont l'hématologie en général, que ce soit les pathologies bénignes ou malignes, et certaines tumeurs solides telles le cancer du poumon, les sarcomes et les tumeurs neuroendocrines. Donc, je me considère tout de même un généraliste. Comme vous l'avez mentionné, le reste de mon temps est partagé à faire de l'enseignement pour la faculté de médecine de Sherbrooke à Moncton et puis faire de la recherche fondamentale et clinique en collaboration avec l'Université de Moncton et l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer. Pour le reste de mon temps, c'est les sports, les enfants et les loisirs.
Puis, puisqu'aujourd'hui, le balado va être au sujet de la leucémie lymphoïde chronique, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est possible aussi pour vous de nous parler brièvement des principaux traitements?
Oui, donc, quand on parle des traitements, je crois qu'il faut y aller un peu de façon systématique par catégorie pour qu'on puisse s'y retrouver. Il y a énormément d'options de traitement. Je tenterai de les classifier et autant que possible pour le reste de la présentation, j'essaierai d'utiliser les noms génériques des médicaments plutôt que les noms commerciaux. Mais je nommerai les médicaments au moins pour qu'on puisse se retrouver. Donc, la première catégorie serait ce que j'appelle l'immunothérapie. Quand on parle d'immunothérapie de nos jours en cancer, il y a énormément de modalités thérapeutiques qui utilisent le système immunitaire, mais pour la LLC, pour le moment, on parle surtout de traitements avec des anticorps. Donc, les exemples qu'on revoit le plus souvent sont des médicaments comme le rituximab ou le obinutuzumab, qui est aussi appelé Gaziva. Donc, je dis souvent à mes patients que si les médicaments avaient des noms faciles à prononcer ou qu'il y avait seulement un nom pour chaque médicament, qu'un diplôme en médecine serait trop facile à décrocher. Donc, il a fallu donner des noms compliqués pour que ça soit impressionnant. Donc, ces traitements d'immunothérapie-là ou d'anticorps sont souvent donnés en association avec les autres classes de médicaments que je vais mentionner plutôt qu'en agent seul. La prochaine classe de médicaments serait ce qu'on appelle les agents cytotoxiques. C'est ce que les gens ont tendance à appeler la bonne vieille chimiothérapie. Le terme chimiothérapie n'est pas beaucoup, je ne l'aime pas beaucoup. Je trouve que ça ne désigne pas vraiment bien ce qu'on veut dire et c'est un peu vague. Pour nous, des agents cytotoxiques, ce sont des agents qui vont aller agir directement sur la biologie de la cellule. mais de façon un peu non spécifique. Donc, le médicament va prendre avantage des cellules qui ont une réplication ou qui se divisent rapidement, telles les cellules cancéreuses. Mais malheureusement, peut également s'attaquer à d'autres cellules saines du corps, comme les muqueuses de la bouche, les intestins ou autres endroits où les cellules se répliquent rapidement. Et c'est ceci qui résulte en des effets secondaires qu'on discutera plus tard. Donc, des exemples classiques d'agents cytotoxiques qui sont utilisés en LLC seraient la fludarabine, la cyclophosphamide, la bandamustine ou même des fois des pilules telles que le chlorambucil. Donc, ce sont peut-être des médicaments que vous reconnaîtrez dans les protocoles qui sont parfois utilisés. Par la suite viennent une grande catégorie d'agents que l'on appelle les agents ciblés. Donc, dans les agents ciblés, j'ai tendance à les diviser en trois catégories, dont les premiers sont les inhibiteurs de la kinase Bruton. Donc, les exemples les plus communs sont ce qu'on appelle ibrutinib ou acalabrutinib. Sinon, il y a les agents inhibiteurs du BCL2, qui est une autre voie qu'utilise la cellule. Et le grand classique que l'on reconnaît le plus souvent pour l'instant serait le venetoclax ou le venclaxta. Puis finalement, la troisième catégorie serait les agents inhibiteurs du PI3K. Un grand classique serait idelalisib ou zidelig. Donc, comme vous voyez, des prononciations qui ne sont pas toujours très faciles, mais qui sont toutes des différentes classes de médicaments. Il y a d'autres modalités thérapeutiques dont je ne discuterai pas aujourd'hui, qui sont également utilisées, telles que la greffe de cellules souches ou très rarement la radiothérapie, ou d'autres modalités immunitaires qui sont en recherche en ce moment, mais celles-ci seront beaucoup moins discutées ce jour. Donc, qu'est-ce qui va permettre à un clinicien vraiment de choisir le traitement le plus approprié? Ça va vraiment dépendre de facteurs qui sont reliés au patient lui-même, mais également des facteurs qui sont reliés à la maladie du patient. Donc, pour des raisons qui sont reliées à la génétique de votre tumeur, il est possible que votre clinicien élimine certaines catégories d'agents qui fonctionneraient peut-être moins bien. Et les autres aspects qui sont surtout reliés à des facteurs du patient même. Donc, à une extrémité du spectre, on retrouve des jeunes patients résilients avec très peu de comorbidité qui seraient capables de tolérer les effets de presque tous les traitements. Mais la LLC, comme on le sait, touche également une population qui peut être à l'autre bout du spectre, une population un peu plus, je dirais, sage, avancée en âge et plus fragile. Et puis, certaines comorbidités sont à rechercher pour choisir de façon appropriée les traitements parce que, en raison des profils d'effets secondaires qu'on discutera tantôt, mais il est important que le clinicien recherche est-ce que c'est un patient qui a des conditions cardiaques, des arythmies ou des arythmies cardiaques qui veut dire que le battement de cœur est irrégulier. Est-ce que c'est un patient qui prend des médicaments qui pourraient le faire saigner de façon abondante? Est-ce qu'il y a eu des infections sérieuses qui pourraient être encore latentes dans le corps du patient et qui pourraient se réveiller si on diminuait le système immunitaire? Et bien sûr, il faut avoir une bonne fonction rénale, une bonne fonction hépatique pour pouvoir métaboliser, donc absorber et éliminer les médicaments de façon appropriée. Donc, le rôle de votre médecin sera de vous guider à travers tout ça et de choisir le traitement que l'on croit être le plus efficace, tout en faisant des compromis avec les comorbidités du patient et aussi les attentes réelles du patient, parce que certains des traitements peuvent engendrer des effets secondaires plus que d'autres et peut-être engendrer des déplacements au centre d'oncologie plus que d'autres.
Puis, vous parliez de l'efficacité des traitements. Donc, justement, les traitements actuels sont-ils efficaces? Et aussi, je sais que vous l'avez un peu mentionné quand vous avez parlé des différences d'âge et de la tolérance au traitement. Donc, est-ce que les traitements en général sont bien tolérés?
Donc, en termes de l'efficacité, je vous dirais que la réponse courte est certainement oui, les traitements sont efficaces. La leucémie lymphoïde chronique a tendance à être une leucémie qui est très sensible à la plupart de nos traitements. C'est sûr que plus on avance dans le parcours de la maladie, plus on retrouve une maladie qui devient têtue, intelligente et qui parfois va décider de devenir réfractaire à certains de nos traitements. Sauf de rares exceptions, je dois par contre mentionner que les traitements ne sont généralement pas à but curatif. Donc, généralement, nous ne tentons pas de guérir la maladie avec les traitements, mais nous pouvons certainement engendrer des rémissions, donc calmer la maladie ou l'endormir pour parfois des très longues périodes, donc pour plusieurs années. Il y a certainement eu des progrès en termes de tolérance au traitement. Donc, les nouvelles classes de médicaments nous offrent des traitements qui sont beaucoup plus ciblés sur le cancer et qui auront moins d'effets secondaires hors cible. Donc, quand je parle d'effets hors cible, ça serait sur les cellules saines du corps, donc beaucoup moins d'effets secondaires de cette façon-là. C'est sûr que une des choses que je vous dirais qu'il faut faire attention, c'est qu'on a souvent tendance à associer une facilité ou une meilleure tolérance aux traitements qui sont donnés par la bouche plutôt que les traitements intraveineux. Je vous dirais que des fois, c'est une fausse réassurance. Donc, les traitements par la bouche, il faut quand même faire très attention. On a souvent affaire à une population un peu plus âgée. Des fois, entre médecins et patients, on peut avoir de la difficulté à se comprendre et la prise de médicaments doit être faite de façon appropriée et on doit avoir une façon de documenter que le médicament est pris sans faire d'erreur. Donc, il faut éviter de se surdoser à domicile ou de se sous-doser. Il faut aussi jongler avec la polypharmacie des patients. Donc, les patients prennent souvent plusieurs autres pilules. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction possible.
Puis, concernant les effets secondaires, je sais que vous avez mentionné bon, que c'est très relatif au traitement pris par la personne, mais également à des caractéristiques telles que l'âge. Donc, mais est-ce que c'est tout de même possible pour vous de me donner un aperçu des effets secondaires qui sont courants avec les différents traitements?
Oui, certainement. Donc, encore une fois, j'aurais tendance à avoir une approche, encore une fois, avec les mêmes catégories ou classes de médicaments qu'on a discuté tantôt. C'est sûr que l'effet secondaire un peu universel de toutes les classes de traitements, c'est la fatigue. La fatigue est toujours quelque chose qui est très difficile à évaluer, à quantifier. Ça veut dire quelque chose de complètement différent d'un patient à l'autre. Mais ce qu'on veut surtout savoir en tant que clinicien, c'est est-ce qu'il s'agit d'une fatigue avec un patient qui demeure fonctionnel, qui a une joie de vivre et qui est capable d'effectuer ses tâches à la maison, ou est-ce que c'est une fatigue qui est devenue complètement dysfonctionnelle avec les traitements? Donc, la fatigue est certainement l'effet secondaire le plus universel. Mais par la suite, en termes de catégorie de traitement, je vous dirais que pour l'immunothérapie, l'effet secondaire le plus commun serait la réaction allergique. Cette réaction allergique apparaît ou survient pendant l'infusion, donc généralement à l'hôpital, sous surveillance, et généralement pendant les premières ou deuxièmes injections. Si les patients n'ont pas réagi lors des deux premières infusions, généralement les choses se passeront bien par la suite. Sinon, il y a un faible taux de baisse de globules blancs avec de l'infection, donc le système immunitaire est faiblement compromis tout de même avec ces agents-là. Pour les agents cytotoxiques, donc ce qu'on a tendance à appeler la chimiothérapie, l'infection demeure encore une fois un effet redouté. Pour les inhibiteurs de la tyrosine Bruton, je vous dirais que on surveille surtout les arythmies cardiaques, les saignements excessifs, surtout si le médicament est donné en association avec des anticoagulants ou des agents antiplaquettaires qui amèneraient à un patient qui aurait déjà une prédisposition à saigner de façon excessive. Il faut également faire attention aux maux de tête qui peuvent arriver surtout pendant le premier mois. Généralement, c'est un effet qu'on s'attendrait qui serait réversible. Pour les inhibiteurs du BCL2, on parle surtout de baisse des globules blancs, donc une baisse du système immunitaire avec les infections. Mais le médicament est parfois tellement efficace qu'en tout début de traitement, votre clinicien voudra faire très attention à éviter ce qu'on appelle une lyse tumorale. La lyse tumorale, c'est en fait un phénomène où vos cellules de leucémie sont détruites. Vous allez me dire, bien ça, c'est une bonne chose. En effet, c'est une bonne chose, mais si le phénomène se fait trop rapidement, les tumeurs libèrent une toxine qui peut causer problème à vos reins ou à d'autres organes du corps. Donc, il y a vraiment une prise progressive du médicament qui est fait sous surveillance généralement avec cette classe de médicaments. Et puis finalement, pour les inhibiteurs du PI3K, je dois vous avouer que c'est des agents qui sont beaucoup moins utilisés de nos jours et la plupart des cliniciens au Canada auront probablement une expérience un peu plus limitée avec cette catégorie d'agents en raison de la disponibilité de d'autres classes de médicaments qui ont peut-être un profil d'effet secondaire un peu plus favorable. Mais on reconnaît tout de même comme effet secondaire la diarrhée qui est causée par une inflammation de l'intestin et une atteinte du foie ou des voies biliaires. Donc, ce seraient les effets secondaires principaux qu'on voudrait déclarer pour chaque classe de médicaments.
Puis dans ces effets secondaires, est-ce que certains sont peut-être à surveiller de plus près parce qu'ils représentent un risque, mais surtout, à quel moment une personne en traitement doit-elle contacter son équipe soignante?
Donc, vraiment, l'effet secondaire le plus redouté, c'est vraiment l'infection. Donc, il peut survenir des infections plus banales qui sont facilement traitées avec des agents d'antibiotiques pour les bactéries ou antivirales pour certains virus. Mais il existe quand même des infections qui sont très sévères, voire potentiellement même mortelles, avec certains des traitements. Donc, c'est certainement quelque chose qui doit être pris au sérieux. Une fièvre sur l'un des médicaments ou des symptômes infectieux doivent certainement être déclarés et le patient doit consulter pour ces symptômes. On a tendance à croire souvent que les infections nous proviennent de notre entourage. C'est vrai pour certains cas, mais la plupart des infections qui sont le plus redoutées sont en fait déjà des germes que l'on a tous présents dans notre corps et que notre système immunitaire en temps normal est capable de gérer. Mais une fois que le système immunitaire est affaibli, soit par la leucémie elle-même ou par le traitement qui est donné, les infections peuvent faire surface. Donc, un grand classique serait l'infection à herpès zostère, qu'on a tendance à appeler le zona. Nous, ici en Acadie, on l'appelle le bardeau. Donc, ça serait un exemple classique d'infection qui est latente, qui n'a pas nécessairement été donnée par l'entourage du patient, mais qui était déjà présente dans son corps. Mais de façon générale, je vous dirais que ce qui est de mise pour tous les patients, ça serait vraiment de contacter votre équipe soignante lorsque vous remarquez tout symptôme qui est nouveau et qui est persistant. Donc, un symptôme que vous n'aviez pas auparavant et qui perdure. Donc, c'est vraiment ces deux critères-là que je vous dirais qui sont les plus importants, parce qu'il n'est pas toujours facile de départager ce qui est relié au traitement et ce qui ne l'est pas.
Puis, si on revient un peu dans les effets secondaires, peut-être plus courants, en exemple, vous parlez de la fatigue. Bon, je nomme celui-ci, là, mais est-ce que dans ces effets secondaires, pardon, qui sont plus courants, est-ce que certains peuvent être gérés par la médication?
Donc, certains effets secondaires peuvent potentiellement être gérés par la médication. Je pense à des choses comme les arythmies cardiaques, les infections dont on vient de parler, peut-être modifier certains médicaments qui pourraient vous porter à saigner de façon excessive. Donc, il y a certains effets secondaires qui peuvent être gérés par l'addition de médicaments. Mais je vous dirais que la plupart des autres effets secondaires dont on a discuté sont plutôt gérés par soit des modifications de dose à la baisse de l'agent qui est utilisé comme traitement, ou de prendre des pauses ou de créer un certain retard pour la prochaine dose de médicament. Et en tout dernier recours, si vraiment il s'agit d'un effet secondaire qu'on n'est pas capable de gérer avec les méthodes mentionnées, bien là, des fois, on sera malheureusement obligé de changer de classe de médicament complètement.
Puis selon votre expérience, quels effets secondaires ont le plus d'impact sur la qualité de vie?
Donc, ça, c'est très difficile à répondre. Donc, en fait, je pense que la raison pour laquelle la question est difficile, c'est qu'on a beaucoup de misère à mesurer ou à définir c'est quoi exactement la qualité de vie pour un patient. Donc, tous les patients vont avoir une opinion différente. Certains patients vont miser beaucoup plus sur la longévité. Donc, vont vous dire, moi, je suis prêt à subir ou à vivre des effets secondaires peut-être un peu plus sérieux si je sais que le médicament va m'apporter une plus longue vie. D'autres patients vont nous dire, écoutez, moi, je veux vraiment minimiser les effets. Je veux avoir peut-être des périodes sans traitement, si possible, plutôt que des traitements en continu, quitte à sacrifier le pronostic global de la maladie. Et en fait, souvent, on va voir que la philosophie du patient va changer également en cours de route. Donc, souvent, en début de maladie, on veut certainement être beaucoup plus agressif, alors que plus tard dans le parcours de la maladie, ou si un patient est plus âgé, peut-être que les patients vont me dire, écoutez, moi, je préfère éviter ou sacrifier la longévité, quitte à avoir un peu moins d'effets secondaires. Les chercheurs essayent de mesurer, de définir la qualité de vie, mais c'est très difficile. C'est des outils qu'on utilise beaucoup en recherche. Mais pour un patient individuel, est-ce qu'on discute plus de la fatigue? Est-ce que c'est pour ce patient-là les symptômes digestifs? Est-ce que c'est le nombre de déplacements au centre d'oncologie pour des traitements ou des prises de sang? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à discuter avec chaque patient individuellement et ne pas prendre pour acquis que tous les patients sont les mêmes.
Puis, j'ai l'impression que ça va être un peu... votre réponse va être un peu semblable, que c'est relatif à chaque personne et qu'on doit vraiment faire du cas par cas. Mais selon vous, quand les traitements sont terminés, combien de temps faut-il pour revenir à la normale? Puis, pourquoi les patients ont des effets secondaires parfois qui perdurent après avoir suivi une chimiothérapie?
Donc, malgré le fait que la plupart des agents sont éliminés du corps en quelques jours ou quelques semaines, les effets secondaires, eux, peuvent perdurer un peu plus longtemps. La durée des effets secondaires va vraiment dépendre de la sévérité de l'effet secondaire. Donc, je peux penser, disons, à des infections sérieuses, exemple, au niveau du poumon, qui pourrait laisser des séquelles un peu plus longues, peut-être abîmer la capacité pulmonaire du patient pour un certain temps. Puis, à titre d'exemple, je vous dirais que les agents cytotoxiques, ce qu'on appelle la chimiothérapie communément, oui, les effets secondaires sont peut-être un peu plus aigus et sérieux, mais prévisibles. Et on sait qu'une fois le traitement terminé, la plupart du temps, les effets secondaires vont disparaître à l'intérieur de quelques semaines, quelques mois. On gère des effets prévisibles, mais également imprévisibles. Donc, c'est pas toujours pareil d'un patient à l'autre.
Puis, avec votre expérience, que diriez-vous à quelqu'un qui doit gérer au quotidien les effets secondaires?
Donc, je pense que la première chose, c'est de ne pas prendre pour acquis nécessairement que le symptôme vécu est nécessairement en lien soit avec la leucémie ou avec le traitement. Donc, il y a plusieurs patients, des fois, qui vont omettre de mentionner des symptômes en se disant « ben je prends un traitement, c'est normal, je dois vivre certains symptômes ». Je pense que c'est important de mentionner les symptômes à son hématologue ou son oncologue pour que cette personne puisse au moins évaluer est-ce qu'il s'agit vraiment d'un effet secondaire du médicament, quelle en est la sévérité. Le médecin devrait être capable de vous expliquer ce qui est attendu. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un effet secondaire réversible? Donc, peut-être qu'il vaut la peine de maintenir le traitement si c'est pour une période prédéfinie qui est courte, en sachant très bien que l'effet secondaire sera réversible, tandis qu'un effet secondaire qui est irréversible ou un traitement qu'on a planifié à donner à long terme, c'est sûr que ça devient très difficile de vivre même un effet secondaire qui est plus minime peut-être, mais si on sait qu'on a besoin de le vivre à long terme, ça devient beaucoup plus important. Le clinicien devrait également être capable de juger, bon, si on modifie la dose ou si on change le traitement, à quel point ceci va réellement compromettre votre pronostic. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être discutées avec le clinicien et ne pas cacher les symptômes. Faut en discuter.
Puis, pourquoi, selon vous, certaines personnes vivent-elles plus d'effets secondaires que d'autres?
Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont imprévisibles. Donc, je vous ai mentionné les effets secondaires communs que l'on connaît pour chaque médicament. Mais on aimerait des fois avoir une boule de cristal en offrant un traitement à un patient pour pouvoir prédire l'avenir. Je vous dirais qu'il y a probablement des éléments génétiques chez chaque patient qui fait qu'on a les capacités de métaboliser, d'éliminer un médicament de façon différente que notre voisin. Donc, il y a certains patients qui vont peut-être moins bien métaboliser un médicament et donc ressentir plus d'effets secondaires. Il y a aussi le fait qu'il faut reconnaître que les doses que l'on utilise sont en fait, ont été créées par des méthodes qui sont imparfaites. Donc, vous pourrez constater qu'on utilise les mêmes doses pour la plupart des agents ciblés, que ce soit un patient de 40 kg ou un patient de 120 kg. Donc, on peut imaginer que peut-être que la distribution du médicament n'est pas la même selon le gabarit des patients. Puis, il y a aussi de l'inconnu du passé du patient. Donc, je vous ai mentionné les infections latentes ou cachées qui peuvent être présentes chez certains patients qui pourraient refaire surface, tandis que peut-être, par exemple, quelqu'un qui avait une ancienne tuberculose pourrait se réactiver en traitement, tandis que le prochain patient n'aurait pas cette infection latente-là en attente, là. Donc, c'est plusieurs facteurs qui peuvent changer la sévérité des effets secondaires.
Puis pour conclure, quant aux effets secondaires liés au traitement, est-ce que l'avenir pourrait apporter des options de traitement avec moins d'effets secondaires?
Donc, je vous dirais que oui, il y a certainement de l'espoir. Le plus bel exemple des dernières années sont vraiment les catégories d'agents ciblés dont je vous ai parlé, qui ont permis vraiment, le mot le dit, de cibler la leucémie en espérant toucher le moins possible les autres cellules saines du corps. C'est sûr que la cible n'est pas parfaite. Donc, les effets secondaires, il en existe encore, mais beaucoup moins que les agents que l'on avait auparavant. Et puis, qu'est-ce que l'avenir nous prépare? On ne le sait pas. Les chercheurs travaillent fort. On travaille beaucoup sur la machinerie du système immunitaire qu'ont les patients pour essayer de combattre plusieurs sortes de cancers. C'est beaucoup en stade de recherche clinique pour l'instant. Mais on espère que on verra les nouvelles catégories de traitements d'ici peu.
Merci beaucoup, Dr. Finn, d'avoir pris le temps aujourd'hui de démystifier un peu le sujet avec nous. Puis je pense que la conclusion va pouvoir donner un peu d'espoir là, aux personnes qui écouteront ce balado. Donc,
vous êtes bienvenue.
Merci. Et vous à la maison, si vous avez des questions sur la LLC ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région et à visiter le www.cancerdusang.ca. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Ce balado est rendu possible grâce au soutien de AstraZeneca.
Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à enregistrer, veuillez nous en faire part au Québec Info à commercial.lls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez slcanada.org.